Bon, là, du coup, tu m'as montré un petit peu toute ta petite famille d'animaux. Et ce que tu me disais, c'est que tu fais des balades
tout
avec
à fait.
Les moutons.
J'ai la chance d'avoir un lavoir qui est à 15 minutes de marche de la maison, un vrai lavoir en pierre, etc., en pleine forêt. On enfile les licoles et on part en balade.
Tu vas me montrer ça?
Avec plaisir, on y va.
Allez.
Et ça, c'est vraiment des licoles pour bélier, en fait, pour mouton.
Ah, c'est spécial pour les.
Ouais, c'est spécial pour mouton, ceux-là. Ratafia, est-ce que tu veux partir avec nous en balade? Mais oui, mon loulou! Ça va! Puis comme tu vois, hein, ils ont l'habitude, hein, ils bougent pas et tout. On lui met la petite lange en dessous, sur l'anneau.
C'est beau comme ça, dis
donc. Et voilà, bah écoute, je te le confie.
Ouais.
Et puis bon, on va pouvoir partir en balade.
Au revoir les autres.
À tout à l'heure.
Tu nous emmènes en balade, mais avant que je comprenne un peu plus la destination, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que des gens viennent chez toi pour faire des promenades avec les animaux.
Alors les gens, ils viennent chez moi pour faire ça parce que c'est une activité très originale, hein, qui je pense, ça se fait pas beaucoup ailleurs. Et la balade, ça va être l'occasion déjà de... d'être un peu en communion avec l'animal que tu promènes et en même temps de se balader dans la nature normande parce que tu vas voir que plus ça va, plus on va s'enfoncer dans la forêt et ensuite on va arriver au lavoir de Trigueville.
Alors l'intérêt c'est quoi pendant la partie de la balade? C'est-à-dire avant le lavoir, c'est plutôt de créer un lien entre la personne qui va tenir la longe et l'animal. Mmh. Est-ce que c'est plutôt une vision naturaliste où l'animal il est là mais tu vas aussi parler de la forêt, des plantes, etc. Enfin, comment ça se passe?
Alors, ça va être un petit peu les deux choses que tu as dit. On va parler de l'animal et avoir la forêt autour de nous, bah, moi, naturellement, je vais dire, ah bah, vous voyez toutes les petites fleurs jaunes, là, c'est des boutons d'or. En ce moment, les abeilles, elles vont butiner. En fait, je vais profiter de ce que je vois autour de moi pour faire des petites explications sur la nature, sur les plantes, les animaux sauvages, etc.
En plus, là, le chemin, il est complètement accessible, même pour des personnes âgées qui viennent.
Ah bah, totalement.
Avec les enfants.
Et mais, alors même des jeunes enfants,
on a
en fait.
Une accélération, là.
Oui. Oui, Ringo, il essaye toujours un petit peu. Il sait qu'à la fin, il va avoir le droit de manger un petit peu de feuilles.
Mais écoute, je vais le laisser passer devant.
Ouais, ça marche.
Comme un... un jet ski ou... D'accord. Alors, c'est pas par là.
Ah bah, ils aiment bien. Ah, ça, c'est que son côté mouton, hein. Des animaux de montagne, ça grimpe. Lui aussi, il va vouloir y aller. Allez, Ratafia, on y va. Attention, que je te fonce pas dedans. Donc là, ce qui est chouette à cette époque-là, au printemps, c'est que vraiment, bah, il y a les petites feuilles qui poussent, il y a des petites fleurs un peu partout. C'est plutôt sympa comme saison pour se balader. C'est beau là, dans la forêt.
Alors on voit
dans Ratafia, voilà. Que tu veux boire, Lolo?
C'est chouette, il y a même une petite table.
Oui, il y a une petite table. Donc ça, c'est pareil, j'ai des familles qui aiment bien amener le goûter de leurs enfants, etc. Et on se pose là, on fait brouter un petit peu les animaux, pardon. Ouais. Voilà, t'as un petit arbuste, très bien. Ah, Ratafia, lui, il s'est trouvé des petites ronces à se mettre sous la dent. Donc les chefs des fossés, c'est une race normando-bretonne qui a été beaucoup utilisée, d'où son nom l'indique, pour tailler les fossés en fait. Ça va beaucoup manger, bah, comme il est en train de faire, ça va manger les feuilles des ronces. Et en fait, plus il va manger les feuilles, et notamment les jeunes feuilles, et la ronce va s'étouffer d'elle-même en fait. Il ne va pas manger la tige de la ronce comme on pourrait croire, mais c'est vraiment les petites feuilles.
Et à force de faire photosynthèse parce qu'elle a plus de feuilles.
C'est ça, c'est exactement ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut ramener aux deux louloutes qui sont restées auprès?
Bon, on peut leur prendre un peu de lierre, hein, ça leur fera plaisir. On peut essayer de prendre quelques branches.
Les petites jeunes qui sont là.
Oh, tu vas voir, pour le retour, ils vont avancer plus vite.
D'accord.
Donc dans cette forêt, on a beaucoup de châtaigniers, de merisiers comme celui-là et de noisetiers.
J'ai vu quelques châtaignes par terre.
Oui,
j'ai vu des blancs aussi. Hein,
oui, il y a pas mal de chênes aussi. Et il y a quelques acacias. Les acacias, c'est ceux qui ont des petites rayures sur le tronc ici.
Ouais. Et qui ont été un petit peu ratatinés.
C'est ça. Ça, les abeilles, elles adorent les fleurs d'acacia. C'est bien, les loulous.
Alors, toi, tu vas aller
dans le petit parc en bois.
Je vais faire la bergère.
On va ouvrir une porte.
Bon, c'était très chouette cette petite balade digestive après le repas.
Je suis ravie que ça t'ait plu.
Qu'est-ce que tu me proposes de faire maintenant?
Bah écoute Tristan, je te propose d'aller faire une petite activité médiévale, mais pour ça, va falloir changer de tenue parce que là, c'est pas du tout adapté. Donc je te propose de mettre une tenue typiquement viking, un petit pantalon et une tunique. Moi, je vais aller mettre une robe de mon côté. Et on se rejoint pour faire ça.
Ok.
C'est parti.
Ah donc t'as ramené un furet.
Eh oui, j'ai ramené un furet. Je vais t'expliquer un petit peu d'où ça vient, ces petites bêtes, et pourquoi on avait des furets dans les maisons. C'est parti.
Ok, bah, je te préviens, c'est l'animal pour lequel je suis un peu le moins à l'aise. Donc c'est une découverte pour moi.
Bah c'est pas grave, on va travailler là-dessus alors.
Allez, c'est parti.
C'est parti. Ah, tu vois, Tristan, finalement, t'as pas si peur que ça?
Alors, en fait, j'ai pas vraiment peur du furet. C'est juste que c'est un animal où je vais pas avoir une affinité particulière. Et même si c'est un animal domestique, je le vois physiquement comme un animal sauvage, en fait. Mmh. Et du coup, je vais l'observer, on va se jauger avec une certaine distance. Mais je le vois pas comme je vois un cochon d'Inde ou un lapin. Mmh. Je sais pas si tu vois.
Oui, je peux comprendre. Ça vient de plusieurs choses. En fait, le furet, c'est bien un animal domestique, hein, mais c'est le cousin sauvage du putois. Et en fait, dans la tête des gens, du coup, le furet, c'est vraiment un animal sauvage qu'on peut retrouver dans la forêt, etc. Mmh. Et comme c'est un petit carnivore aussi, bah, y a pas ce côté rassurant du petit rongeur, lapin, cochon d'Inde, etc. C'est pour ça que le furet peut un petit peu intimider les gens. Et en plus de ça, c'est un animal vraiment qui a été... créé, on va dire ça comme ça, pour la chasse. Et du coup, dans cet esprit-là, dans la tête des gens, les furets, c'est méchant, ça mord, alors que bah, tu te vois bien, là, il est en train de s'allonger sur toi.
Il m'a élu, il va
faire une bonne sieste. Et le « après sa mort » qu'on peut entendre, ça vient des furets qui ont été domestiqués pour la chasse. Et du coup, effectivement, c'est des furets qui n'ont pas l'habitude d'être pris dans les bras, d'être manipulés et compagnie, et qui, dès qu'ils voient des doigts, ça veut dire pour eux qu'ils vont aller chasser. Donc forcément, les petits doigts, ils vont mettre leurs dents dessus. Mais des furets comme le mien, qui sont manipulés depuis qu'ils sont tout petits, etc., voilà, je peux les prendre dans les bras, tu vois. Quelqu'un comme toi qui ne connaît pas, il va aller dessus, il va se poser, etc.
Ouais.
Mais c'est des animaux qui ont beaucoup la bougeotte aussi, et ça peut perturber un peu. Contrairement à un cochon d'Inde qu'on va mettre sur les genoux et qui ne va pas bouger, les furets, oui, ça s'agite partout. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez les furets, justement, c'est que ça a ce côté très joueur. C'est un peu un mélange entre un chien et un chat, en fait. Voilà, ça va venir quand on l'appelle, quand c'est content, ça fait des petits sauts et des petits cris qui s'appellent le pout-pout. Ils vont faire pout-pout-pout-pout, comme ça. Et les furets, pout-pout, voilà, c'est un de leurs bruits.
Tu veux bien pout-pouter, s'il te plaît?
Ah, je suis pas sûre qu'il le fasse, parce qu'il est en mode exploration de son environnement. Ça, c'est pareil, les furets, on dit que ça n'a pas d'attache à son maître, mais c'est juste que quand c'est en extérieur, c'est tellement curieux de tout que c'est en exploration permanente, en fait. Donc, du coup, ils peuvent même se perdre comme ça. Si je le laisse dans le jardin, par exemple, il va aller fouiller partout. Et à un moment donné, il va se dire « Ah mince, je suis loin de chez moi ». Et il ne saura pas revenir parce qu'il a été emporté par sa curiosité.
Bon, alors, c'est pas pour rien que tu m'as fait mettre tout ça. Mmh. C'est pas ma tenue habituelle.
Ah oui.
Explique-moi un peu cet univers particulier dans lequel tu vis.
Alors, en fait, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les fêtes médiévales. Donc, c'est des fêtes où il va y avoir beaucoup de passionnés qui vont revivre certaines époques. Moi, par exemple, je fais plus l'époque viking, hein, qui va du 8e à fin 10e siècle à peu près. On a beaucoup l'image du viking avec sa hache, etc. Mais en fait, c'était avant tout des marchands. Et du coup, l'univers du médiéval, bah, ça rassemble pas mal de passionnés comme ça. Beaucoup d'artisans qui font les choses avec leurs mains, etc. Et moi, comme j'aime beaucoup les animaux, j'aime bien parler un petit peu des animaux qui sont dans la vie des humains depuis très longtemps. Par exemple, le furet, ça a été domestiqué par l'homme au 6e siècle. Donc ça date déjà d'il y a très longtemps. Par exemple, le tableau La Dame à l'Hermine, là, qui est très connu, et ben, en fait, ce n'est pas une hermine, c'est un furet. Les furets étaient déjà dans nos vies dans ces époques-là, et ça a vraiment été domestiqué pour la chasse à partir du putois. On a pris des putois de plus en plus sympas et ça a fini par créer une espèce à part entière, le furet, tout comme les chiens. On a pris des loups de plus en plus sympas et ça a fini par créer le chien domestique. Ce que j'aime bien dans l'univers du médiéval, c'est les gens qui sont authentiques et qui cherchent des vraies valeurs, on va dire ça comme ça. À cette époque-là, bah, les femmes, elles avaient beaucoup plus de droits chez ces peuples-là que chez d'autres peuples. Par exemple, elles pouvaient divorcer, elles pouvaient partir en raid, elles pouvaient combattre, elles savaient se défendre, etc. Et on voit qu'on a un peu régressé, malheureusement, dans notre monde moderne. Et je trouve ça intéressant, justement, de parler de ce genre de choses à un tout public.
C'est hyper moderne, en fait, ce que tu dis.
C'est juste que le médiéval permet d'échapper un petit peu à notre époque, le temps d'un week-end. Et ben, je te propose d'aller te montrer les moutons et de t'expliquer ce qu'on pouvait faire un petit peu à l'époque avec les moutons et ce que moi je montre pendant les fêtes médiévales.
Ok, on va aller voir ça.
C'est parti. Alors du coup, quand je suis en fête médiévale, j'aime bien expliquer comment on part du mouton à la laine coupée, au fil de laine.
Ok.
Donc du coup, j'expliquais aux gens qu'à l'époque, quand on n'avait pas l'électricité, eh ben, on se servait de ce petit outil qui s'appelle des forces ou ciseaux à laine. Donc ceux-là, voilà, ils ne sont pas en excellent état, mais ça montre un petit peu ce qu'étaient les ciseaux à laine à l'époque. En fait, le principe, c'était d'arriver, on partait du haut du mouton comme ça, on désanglait, clac, 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 on coupait un petit peu partout. Et le but, c'était d'avoir une grosse toison. Hop, je vais t'en montrer, j'en ai une complète ici.
Et donc, tu arrives à avoir une toison complète.
C'est ça.
Il n'y a pas de discontinuité.
Celle-ci, c'était la toison de Rita qui est là, que j'ai coupée l'année dernière au ciseau à laine, justement.
Waouh.
Tu vois, ça, c'est sa toison complète. Et j'aime bien la garder, justement, pour montrer un petit peu.
Et ça, c'est le dessous.
C'est ça, ça, c'est le dessous. On voit que c'est bien plus blanc, hein, mais
ouais.
Que ça a ce côté gras, tu sens
ça,
un petit peu.
Ce côté gras, il y a du suif.
C'est ça, il y a du suin. En fait, c'est ça, le suin, c'est une petite, un petit corps gras que les moutons ont sur la peau. Ça les protège de l'humidité. Et quand on les tond, on s'en rend compte. Mais t'as vu, c'est assez grand. Hein.
On dirait que t'as mis de la... un peu d'huile essentielle.
Ah, même pas. Même pas, celle-là, elle est brute, brute. Donc ça s'appelle des cardes. Les cardes, ça va nous servir à démêler la laine. Pour faire un fil, il va falloir que la laine soit bien démêlée. Donc le principe, c'est deux grosses brosses en métal, comme ça. On va venir mettre la laine entre les brosses. On va les mettre comme ça. Et on va faire des coups comme ça pour démêler la laine. Est-ce que
d'accord.
Tu veux essayer?
En fait, tu tends la fibre dans un seul c'est et même
ça.
Sens, c'est ça?
C'est ça, tu tends et tu vois que c'est assez dur, hein.
C'est
faut
costaud,
avoir
hein.
Des bras. Ouais.
C'est costaud.
Le but, c'est d'arriver vraiment à une laine bien démêlée.
Ouais, je vois
bien,
que j'ai
bien
des
démêlée.
Fibres qui sont toutes droites et que
ouais,
j'arrive à avoir
tout
des...
à fait.
Un peu comme des cheveux crépus.
Exactement, bah, de toute façon, la laine, ça s'appelle comme ça parce que c'est un ensemble, mais c'est un ensemble de poils, hein. Faut pas oublier que c'est du poil à la base.
Alors, je sais pas ce que t'en penses du coup, comme ça.
Bah écoute, ça m'a l'air pas mal, tu vois là, la fibre, elle vient bien comme ça. Un fil qui est bien démêlé, tu vois, hop, tu peux en faire des petits morceaux comme
ouais, on
ça.
On voit bien les fibres.
Ouais, là on voit bien, t'as fait du bon boulot, Tristan,
ah.
Bravo. Donc du coup, une fois que t'as ta fibre comme ça qui est bien démêlée, moi je vais utiliser un petit outil qui s'appelle le fuseau. Donc c'est un peu la version portable du rouet. Alors du coup, est-ce que tu veux essayer de faire un petit bracelet?
Bon, on va essayer.
Je te laisse faire.
Alors.
Donc tu mets le bout de la laine sur le crochet.
Petit bout.
Voilà, le but c'est de mettre dedans. Voilà, exactement
okay.
Comme ça.
Hop, ça tient pas. Si.
Si, c'est bon. Donc
et
le
donc
but
là...
ça va être de tourner avec cette main-là, toujours dans le même sens, parce que si tu tournes dans l'autre sens, tu annules l'effet fil. Et avec ton autre main, ça va être de descendre au fur et à mesure. Donc là, tu es parti sur quelque chose de très fin.
Je suis sur un fil très fin qui va casser.
T'es sur un fil très
moment.
Fin, mais c'est pas grave. Et là, va falloir descendre un petit peu ta main. Tu sens que ça commence à avoir un peu de résistance. Plus ça va, plus tu descends.
Et je suis assez fier
c'est
de pas... mon...
C'est joli, hein, franchement. Alors, faut continuer. Là, tu vas pas avoir assez pour faire un bracelet. continuer jusqu'au bout de ta laine. Voilà. Une fois que tu as là, bon là ça va peut-être faire un peu juste pour un bracelet, mais à la limite je te serre les doigts.
Si tu peux faire sur une bague.
Voilà, je peux te faire une bague de laine. C'est joli aussi, hein, cela dit.
Ça a un effet un peu particulier. Moi je dis, je pense qu'on peut inventer un concept.
Ben voilà, et c'est pas mal.
Je souhaiterais breveter quand même parce que je pense que...
Je trouve que c'est saignant. Hein.
Moi je l'aurais mis dans ce sens-là.
Ah oui, tu peux, oui.
Voilà, et donc là je suis... Je suis mariée à un mouton.
Voilà, bah Ringo qui s'est bien allongé.
Il est pas mal comme ça. Je me promenais tout à l'heure.
Bah c'est ça.
Voilà, mais écoute, voilà, je pense que si on arrive à cacher un petit peu la petite boule, je pense que ça peut faire un nouveau style de,
ah, c'est pas mal.
De bague. Je suis très fier.
Bah tu vois, ça c'est typiquement le genre de choses que je propose en fête médiévale. Comme ça, ça plaît à tout le monde. Tout le monde peut s'essayer, tout le monde
c'est
peut
chouette.
Repartir avec un petit souvenir. Et ça parle vraiment de comment se débrouiller à l'époque sans électricité pour s'occuper des moutons et avoir de la laine.
C'est très chouette. Merci Viviane.
Bah de rien, avec plaisir Tristan.
On va bientôt aller changer, mais avant, tu as voulu me montrer une autre zone de chez toi. Je pense que je vais rester à une certaine distance parce que j'ai une petite appréhension. Je ne suis pas très fan des abeilles, mais est-ce que tu peux me parler un peu de cette partie?
Je comprends totalement pour la peur des abeilles. Hein. C'est plutôt normal d'avoir peur des abeilles, hein. C'est quand même des insectes qui piquent. Donc en fait, cette zone-là, c'est notre rucher principal où on a le plus de ruches avec mon compagnon. Moi, c'est mon activité secondaire, lui, son activité principale, l'apiculture. Et à cette époque-là, on est au printemps, donc comme tu peux l'entendre et le voir, les abeilles sont en pleine activité. Donc là, à cette distance-là, on ne craint rien du tout, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est une activité importante pour toi aussi et qui s'inscrit un peu parce qu'on est... Ça se voit pas encore, mais en fait, on est juste à côté de l'espace des chèvres et des moutons, pas loin des lapins. Mmh. Tout se passe à portée de quelques mètres dans ta maison. Moi, j'en tiens plein de choses de ce qu'on a fait aujourd'hui. Là, j'ai passé une super journée à tes côtés. On a fait des balades. Tu m'as emmené voir un peu tous tes animaux. j'ai donné de ma personne. Toi aussi, tu as donné beaucoup, beaucoup. Et tu nous as accueillis les bras ouverts. Qu'est-ce que tu voudrais que toi, on retienne de cette journée?
Bah moi, j'aimerais bien qu'on retienne que déjà les activités un petit peu originales que se proposent. J'aimerais bien me faire un petit peu plus connaître et j'espère que grâce à toi, ça va se faire un petit peu plus facilement. Et faire comprendre aux gens que c'est pas parce que vous n'avez pas forcément un cheval et un chien que vous pouvez rien faire avec des animaux. Tout est possible à condition qu'on ait assez de patience et qu'on les écoute.
Super. Eh bien, merci de ton accueil.
Bah merci beaucoup
à
toi. À bientôt.
C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup à Viviane de nous avoir accueillis sur son lieu formidable et merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez envie qu'on continue l'aventure ensemble, eh bien abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, activez les notifications. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien vous pouvez suivre aussi une formation gratuite qu'on propose et qui vous permet de découvrir les secrets d'une reconversion réussie dans le monde animalier. Viviane fait aussi partie de l'univers des entrepreneurs animaliers. Vous pouvez aller sur le site entrepreneur-animalier.fr/7jours et je vous offre une formation gratuitement pour découvrir tout ça.